cette notion de purgatoire, elle existe depuis quand? Qui a... Ça vient d'où, ça?
Je ne peux pas vous dire historiquement comment c'est venu. Ce que je crois, c'est que ce serait injuste de dire que le purgatoire n'aurait été inventé que pour obtenir de l'argent. Et c'est vrai que aujourd'hui encore, on peut faire donner des messes pour les morts. Et qu'en général, si on dit une messe pour un mort, c'est aujourd'hui encore pour réduire ses années de purgatoire. C'est-à-dire que dans l'Église catholique, on prie pour les morts dans le but de réduire les années de purgatoire. C'est effectivement la logique de l'affaire. Mais je crois qu'à l'origine, l'idée du purgatoire était en fait très astucieuse et n'était pas forcément avec un but vénal. Je dirais même que l'idée est bonne parce que si on est dans la logique de base qui est du fait qu'il y a un enfer et un paradis, c'est à peu près intenable en tant que tel. Parce que s'il faut diviser l'humanité en deux au moment de la mort entre les bons et les mauvais, on se rend compte très rapidement que c'est d'une très grande injustice. C'est-à-dire... s'il faut couper l'humanité en deux, le meilleur des perdus va ressembler beaucoup au pire des sauvés. Et si on est dans une théologie des œuvres, ce qui est un petit peu le cas de la théologie romaine du Moyen-Âge, vous auriez donné un centime de plus à un pauvre et vous passiez tout à coup au paradis avec les anges qui jouent de la harpe, et un centime de moins, vous êtes dans des chaudrons effroyables. Donc ça, c'est intenable, si vous voulez. Et d'autre part, l'idée de mélanger ensemble, même si on coupe en deux, alors je prends la catégorie de ceux qui sont, mettons, au paradis. Là-dedans, vous allez trouver des gens formidables, les grands saints, l'abbé Pierre, Mère Teresa, et puis des gens très ordinaires qui, finalement, n'ont pas fait autant. Et pareil, en enfer, vous allez mettre en même temps Hitler, et puis moi-même, qui mérite sûrement l'enfer parce que je ne suis pas un saint, mais je ne suis quand même pas Hitler. Donc l'idée de traiter de la même manière des gens aussi hétérogènes est absolument insupportable. Alors ce qui fait que, ce dont on se rend compte très vite, c'est qu'en fait, aucun de nous n'est totalement sain ou totalement mauvais. Et que par conséquent, tout être humain est un mélange de bon et de mauvais. Et que par conséquent, le seul moyen de proposer une issue à peu près raisonnable sur l'après-mort, c'est de dire qu'il y a comme l'a dit Florence, il y a les très bons qui sont sauvés, les très mauvais qui sont perdus, et que la grande majorité des êtres humains... ils sont un peu entre les deux. Et donc, on met un purgatoire pour dire, ben, on les met entre les deux. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est la question. La question, c'était au début, on disait, bon, ben, comme il faut quand même faire triompher la justice, on va dire, pendant ces années de purgatoire, et ça, c'est ce qu'enseigne aujourd'hui l'Église romaine dans le catéchisme, c'est pas des années de peine et de souffrance, mais des années de purification. Donc, on va dire, pendant ces années de purgatoire, on prend un peu tout le monde et puis on essaye de les améliorer jusqu'à ce qu'ils méritent enfin d'être sauvés. Je trouve que du point de vue de la prédication populaire, c'était extrêmement juste et extrêmement bon. La preuve, c'est que quand la réforme a abandonné le purgatoire, parce qu'effectivement, ça n'est pas biblique, le purgatoire est une invention tardive, vous l'avez dit. Quand la réforme a abandonné le purgatoire, il a fallu trouver un autre moyen que celui du jugement par les œuvres, vous voyez, qui est forcément injuste. Et du coup, la réforme a traité le problème en disant « c'est Dieu qui choisit et vous ne pouvez pas savoir comment ». C'est-à-dire que c'est Dieu qui a ses critères, et Dieu choisit d'en sauver certains et d'en perdre d'autres, et ça ne regarde personne d'autre que lui, et il a ses propres critères, qui ne sont pas les œuvres, qui ne sont pas la sainteté ou autre chose, c'est son propre choix. Et ça allait de pair avec une conception... d'un Dieu extrêmement élevé qui a une connaissance des choses, une sagesse qui nous échappe complètement, mais aujourd'hui encore, c'est à peu près insupportable. Je connais aucun protestant aujourd'hui pratiquement qui valide l'idée de cette double prédestination dont on va sans doute reparler, oui. Qui suppose que Dieu choisit d'en envoyer certains en enfer et d'autres au paradis selon des critères que l'on ne connaît pas. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on tombe dans d'autres choses. La plupart de nos contemporains ne croient pas au purgatoire, il faut bien le dire. En général, ils sont plutôt universalistes. Ils disent « bon ben Dieu sauve tout le monde ». Alors on a un grand paradis, on met tout le monde au paradis, et puis l'enfer, soit il n'existe pas, soit, comme je l'ai entendu dire une fois par un évêque d'ailleurs, où on titillait en disant « enfin monseigneur machin, vous croyez quand même à l'enfer ?» Il disait « oui, je crois à l'enfer, mais je crois qu'il est vide ». C'est-à-dire en fait... beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont universalistes et pensent que tout le monde est sauvé, ce qui, à mon avis, la théologie contemporaine, qui est un moindre mal, mais qui n'est une théologie qui n'est certainement pas biblique.
Ah oui.
Lisez l'Évangile, Dieu sépare le bon grain du mauvais grain, il met le bon grain dans les greniers, il brûle la paille, il y a le jugement des nations à la fin, venez-vous les élus de mon père, etc. Et donc cette espèce d'universalisme sympathique est gentil et rassurant, mais n'est certainement pas biblique. En tout cas, pas plus que l'histoire du purgatoire. Et donc voilà, tout ça pour dire que, à mon avis, la notion de purgatoire était une réponse que je qualifierais, moi, 1500 ans ou 2000 ans après, que je qualifierais d'erronée à une question très juste, qui est celle de cette diversité des êtres humains qui fait qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, ni tout sauver, ni même couper en deux, et que par conséquent, on est obligé de trouver une idée de gradation, finalement, dans la notion de salut. Et je crois qu'eux, ils ont trouvé cette solution-là qui a fonctionné un certain temps. Je pense qu'aujourd'hui, elle est caduque. Enfin, peut-être que certains s'y retrouvent dans la notion de purgatoire. Personnellement, pas du tout. Mais qu'en tout cas, la question à laquelle le purgatoire répondait est une véritable question qui est extrêmement juste et que c'était une réponse très fine à cette question-là. Et qu'après, donc, on a eu un usage détourné de ce purgatoire dans le but de gagner de l'argent, ce qui était odieux. Aujourd'hui, les indulgences existent encore dans l'Église romaine. Je crois que le pape récemment a dit cette année est une année sainte, tous ceux qui iront dans une cathédrale gagneront un an d'indulgence, ou je ne sais pas quoi, ça a été dit il y a un an ou deux. Voilà, un an, qui vend, je ne sais pas.
Ah, si.
Ah ben j'aurais bien voulu en acheter, mais en général, ils ne les vendent pas. Ils ne les vendent pas, mais en tout cas, la notion existe. Mais ce qui était odieux, et Florence l'a dit, par rapport à ce que disait Luther, c'est le côté commerce, quoi. Ça, c'est quand même pas sympathique.
Quand même, Luther ne pouvait pas croire au purgatoire.
Mais si,
Ah si, je pense qu'il est...
Oh. Ça va à l'encontre totale de son principe fondamental de la justification par la foi. Quand il choisit qui il veut, il n'y a que la justification par la foi qui peut...
Alors,
attendez.
Parce que là, on va.
Non, mais attendez. Ce que je veux dire, c'est que vous dites exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est effectivement la solution des réformateurs du fait qu'on abandonne le purgatoire et c'est Dieu qui choisit pour des critères qui sont les siens. Donc, on n'a plus de discussion à faire. Cela dit, les 95 thèses dont nous parlons sont le point de commencement de la théologie de Luther. Et dans les 95 thèses, Luther ne remet pas en cause la notion de purgatoire. Ce n'est que petit à petit qu'il va, j'allais dire, affiner sa position ou la radicaliser jusqu'à abandonner l'idée de purgatoire. Mais en tout cas, en 1517, Luther ne remet pas en cause la notion de purgatoire, même si vous avez raison que, bien sûr, en théologie réformée, aboutie, je dirais, de Luther ou de Calvin, il n'y a pas de purgatoire. Voilà.